choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voix du scénarium. Je suis Sébastien au micro, pour ceux qui nous découvrent, je suis pas tout seul, je suis avec Nolwenn. Ça va Nolwenn?
Bonsoir, oui ça va.
Bon, au programme de ce soir, on va avoir du coup un nouvel épisode de l'héritage Blackford, t'as vu? Je l'ai dit correctement direct.
Incroyable.
Fabuleux.
Je te remets cette médaille invisible.
Oh, ah, mais elle est trop belle en plus.
Ouais, elle brille.
Ah oui, c'est ça le jeu de rôle, hein. C'est exactement ce qu'on fait. Mais c'est pas radiophonique non plus, en fait. C'est dommage. Il a fallu un petit schling, tu sais, qui fait le bruit de la...
Je suis pas spécialiste de bruitage, malheureusement.
Mince. Si seulement on avait un spécialiste du bruitage. Si n'hésitez seulement. Pas à venir taper les discutes sur le chat. On est là, sur le www.radio-g.fr, onglet chat. Donc, bah, venez. On pourra taper les discutes pendant qu'on roule. Au programme de ce soir, donc, du coup, l'épisode 5 de la partie 2 de l'héritage Blackford. Ah, je l'ai dit bien une fois, c'est bon. L'héritage
T'avais
Blackford.
T'avais un crédit pour le dire voilà, correctement, tu l'as utilisé.
J'ai perdu une vie. Et puis après, on sera sur du chit-chat, sur du jeu de rôle, probablement. Je pense que j'aurai un petit challenge à te proposer, histoire de te stimuler intellectuellement. Je pense que tu en as besoin. On se posera des questions de comment créer un monstre en jeu de rôle et sur l'échange comme ça.
Tu as toute mon attention.
Ça va ? Allez, on vous laisse dans un premier temps avec l'héritage Blackford partie 3. Juste après, il y aura une petite pause musicale et puis on se retrouvera dans les voies du scénarium. Mais pour l'instant, place à cet épisode enregistré par Javras et... scénarisé par le créateur des chants de Tindalos.
Un des créateurs, il me semble.
Un des créateurs, ils sont plusieurs, mais je pense que ça le valorise vachement que je lui dise que ce soit que lui. Enfin, non, je sais pas. Bon, allez. Allez, on arrête de dire des bêtises et puis on écoute ça. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
La d'accord, et il faut qu'on se méfie d'eux?
Oui, il tire à vue sur tout ce qui bouge.
D'accord, ok.
Maintenant, si vous voulez, s'il vous plaît, laissez-moi y aller.
Allez-y, très bien, ouais. Je vous retiens pas, merci.
Elle s'enfonce dans la friche, et bientôt, les herbes la recouvrent, et vous voyez sa petite silhouette sinuer et se perdre dans le lointain, en direction des bois.
Alors, elle est peut-être inoffensive, mais je suis contente qu'elle n'ait pas dormi avec nous.
Je tiens Whisky près de moi.
Tu tiens Whisky près de toi.
Et j'attends, moi, les deux personnes à la porte, du coup.
T'attends les deux personnes à la porte. Et... Oui.
Non, je me dis juste que je garde à l'esprit que j'ai trouvé les armes de papy, enfin de l'ancêtre, et que j'oublie pas qu'elles sont là.
Il y a qu'un seul fusil, t'as dit.
Oui.
Et il y a plein de munitions.
Mais j'oublie pas qu'il est pas loin.
On frappe à la porte.
Affolant, hein. Tout le monde connaît.
J'ouvre.
Daphné, t'y vas?
Oui, j'y suis, j'ouvre.
T'as deux ouvriers en bleu de travail qui portent des planches sous le coude, et ils ont également une sacoche avec des outils. Bonjour.
Bonjour, vous êtes là bientôt?
Bah ouais.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Bah on vient travailler.
Travailler, c'est-à-dire?
Ouais, c'est Monsieur Bancroft qui nous envoie.
Bonjour, je suis l'aîné de la famille, c'est une propriété privée?
Ouais, mais nous on a un contrat, il a été réglé.
Ouais, alors, par qui? Parce qu'en fait, c'est nous les propriétaires.
Attendez, il sort un petit papier. Monsieur William Elk, vous connaissez?
Oui, on voit qui c'est. Et du coup, c'est quels travaux pour lesquels vous
engagez? Bah, on doit changer les plinthes et les repeindre. Que les plinthes sont pourries.
Ah, oui, ça,
on va faire ça dans la cuisine et dans la grande chambre en haut. Qui galère un peu à lire.
Amour. La grande chambre en haut, c'est amour. Oui, parce que j'ai regardé ce matin.
D'accord.
Désir, entrez, écoutez.
Vous avez d'autres travaux prévus, mis à part ça, ou...
Bah, ça, on peut toujours... Vous pouvez toujours en discuter avec Monsieur Bancroft, mais non. Pas que je le sache.
Ça a déjà été réglé
Ouais, ça a déjà été réglé, sinon on serait pas là.
Et c'est qui a réglé? C'est William?
Ouais, j'ai Monsieur Elk.
D'accord.
Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on nous a dit.
Et quel rapport avec Monsieur Bancroft?
Bah, Monsieur Bancroft, il nous a dit, il y a du monde. Nous, vous avez des travaux à faire. Vous allez frapper, vous allez faire les travaux. Et il a dit, je veux pas vous entendre, donc ça soit fait, et vous mouftez pas.
Ok, merci beaucoup, allez-y.
Merci. Il
faudra qu'on se méfie de ce type, de Bancroft.
Vous voyez que l'ouvrier est en train de chiquer du tabac. Il le crache par terre, dans l'entrée.
C'est un gros dégueulasse.
Vous êtes bien gentil, mais vous faites des travaux, mais le ménage, enfin, vous avez déjà vu comment c'est bien crade. Enfin, s'il vous plaît.
On essaie de maintenir cette maison un peu plus clean, s'il vous plaît.
Bah ouais, on dirait William.
Ouais.
Ouais, William.
Ouais, normal, on est cette famille.
Ouais, je sais, William, il nous disait, vous êtes négligent avec la peinture. Parce qu'on commençait à peindre les plinthes. Et puis il nous accusait de laisser des traces de pieds dans la peinture, mais c'est pas vrai. C'était pas vrai.
Et à aller à la cuisine au bout du couloir, je pense que de toute façon vous savez où c'est.
Ouais, on a déjà travaillé, Jim. On a fait un peu le salon, on a fait un peu la salle à manger, on a paré au plus urgent, quoi.
Genre pas la toiture?
Non, pas la toiture, on n'a pas été payé pour la toiture.
D'ailleurs...
Après, si vous voulez nous payer pour la toiture, on peut vous faire la toiture. Dites pas Monsieur Bancroft, comme ça on se fait un prix.
Non, on n'est pas intéressé pour l'instant.
Attendez, moi j'ai une question. Non, parce que vous avez quand même bien remarqué que la maison, au niveau des champignons, des moisissures, vous savez comment ça se règle, ça? Parce que s'il faut brouiller tout le manoir pour en venir à bout, je vous avoue que les réparations, on va peut-être s'asseoir dessus.
Bah, faut...
fiche, on n'a pas payé.
Je crois que c'est des charpentes de bois tropicaux, je crois qu'il faut. Mais vous avez de la mérule ici, ça m'étonne. J'en ai pas vu, moi.
On nous a dit qu'il y en avait.
Qu'est-ce qui vous a dit ça?
Le notaire.
C'est le notaire, ouais.
Ah, le notaire, mais si c'est le notaire, il doit avoir raison. Il doit avoir raison.
Oui, bah, toujours.
Ouais, toujours.
D'accord.
Et bah.
Genre honnête.
Allez donc en cuisine.
Ouais, ça marche. On va en cuisine.
On vous laisse sur votre travail.
Ouais.
C'est un peu bizarre quand même qu'il fasse la peinture et les plantes alors que tout le reste il est tout pourri. Ou c'est juste moi?
Moi, je referais les fondations juste avant de retaper.
Avant que vous partiez, il y avait des choses étranges sur les murs ou quoi que ce soit.
Tout est bizarre.
Des choses étranges, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire des pentacles, des trucs comme ça?
Des inscriptions.
Non, pas du tout.
Même juste des inscriptions.
Des inscriptions. Des inscriptions. Comme j'ai tué ma sœur, signé Edward. Non, et pas ça non plus.
Alors là, ça serait vraiment très étrange.
Mais vous êtes comique, mon ami, dites-moi.
Étrange selon vous, il y aurait des choses?
Non, parce que les portes des chambres sont marquées avec certains mots.
Ouais.
Ça pose des questions.
Ouais, on appelle ça des vertus, ouais.
Ouais.
Ouais, je crois. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous trouvez étrange dans cette maison, vous?
Ce que je trouve étrange dans la maison, d'ailleurs on a mis une couverture, c'est que le vieux, il avait des caisses et des caisses de munitions. Ça c'est pas étrange peut-être?
Si.
Ouais. Et puis vous avez vu devant les fenêtres du salon,
oui.
Pourquoi est-ce qu'il avait mis les armoires devant les fenêtres du salon? Vous trouvez pas ça étrange ou? Bah voilà, ça c'est étrange.
Bah voilà, c'est pour ça que je vous pose la question de savoir s'il y a pas des choses étranges avant que vous repeigniez.
Ouais, vous avez peut-être raison alors.
En tout cas, merci et allez, vous pouvez y aller.
D'accord. Ils s'en vont gracieusement congédiés par Daphné.
J'essaie de les congédier 50 fois, je vous ai toujours des questions.
dont les épaules larges ont l'air de les impressionner. Et vous entendez bientôt, venir de la cuisine à Anne et tonk tonk. Vous entendez des bruits de travail venant de la cuisine.
Moi, j'y étais dans la cuisine, j'ai rien vu de bizarre particulier en faisant la cuisine ni rien. Il n'y avait pas de pentacle, par exemple, sur la cuisine.
Il n'y avait pas de pentacle dans la cuisine, non, pas du tout. Pas du tout.
Moi, je me roule une clope et je m'en grille une. Voilà.
Tu t'en grilles une?
Ouais, ça me détente, bien sûr.
Ça te détend,
Est-ce que tu peux fumer? Tu peux fumer dehors, s'il te plaît?
Voilà, je me mets sur le perron, t'inquiète, je me mets sur le perron.
Et moi, je range tous les documents qu'on a sortis de la boîte, le testament, tout dans le carton.
Tu ranges tout dans le carton. Très bien.
Abe, je suis sur le perron.
Ouais.
T'as pas parlé d'une madame, quand madame Stenson, elle était là, t'as parlé d'une madame à un moment donné, je sais plus quoi. D'où tu sors ça, toi?
C'est justement, j'étais en train de fouiller les papiers et j'ai trouvé un récépissé de visite concernant du coup Anne. C'est pour ça que je vais poser quelques questions. Et il parlait d'une madame Kozakowska.
Pardon, juste, vous êtes tous sur le perron là?
Non, il y a
on est juste en
train de discuter. Et moi-même.
Et du coup, vous avez refermé la porte après le passage?
Moi j'ai laissé la porte ouverte.
Ok, vous avez laissé la porte ouverte.
Qui visiblement serait la garante de moralité de Monsieur Edward.
Vous voyez en fait sur le pas de la porte une trace noire, au niveau, juste en dessous de la porte. Voilà. Une trace noire qui n'a pas l'air d'être de la saleté, qui a l'air d'être rectiligne.
Je m'approche pour regarder un peu ce que c'est.
Tu t'approches pour regarder ce que c'est. C'est lourdement imprégné dans le bois.
Ouais.
C'est comme un liquide qu'on a mis dans le bois.
Alors je sors.
Hé, attends.
Je les rejoins.
Hier soir, j'ai vidé un pot de peinture. Enfin, un pot de peinture. Un bocal chelou avec un pinceau dedans dans le lavabo.
Ouais.
Je sais pas ce que c'est. Ça puait. C'était immonde. Je l'ai vidé.
Et tu penses que c'est ça qui aurait servi à faire la ligne?
Je sais pas. C'est la porte d'entrée. Le bocal était dans le coin droit en entrant.
Alors, je suis la seule à penser à cette histoire de ligne de sang avec du sel.
Maintenant on est deux.
Oui.
Votre tension à tous les trois augmente de 1.
Je tire une autre clope.
Je sors mon couteau et mon bout de bois et je retape mes fourchettes.
Tu retapes tes fourchettes, tu tires ta clope, ça te fait tousser. Et toi, tu manques de t'écorcher.
Qu'est-ce que tu passes à 11.
Tu passes à 11, tu me lances un des 20. Toi, tu es resté où?
Moi, je suis avec mes animaux.
Oui.
Mais je sens que Whisky a besoin d'une petite promenade.
Tu sens que Whisky a besoin d'une petite promenade.
Parce qu'il est resté toute la matinée avec moi dans le manoir et du coup, il aurait bien besoin d'aller faire pipi dehors.
Tu amènes Whisky vers l'extérieur et tu croises tes frangins sur le pas de la porte dans un état d'agitation assez avancé.
Ça va, tout va bien?
Oui, non.
Oui, c'est juste que plus on reste ici, plus ça devient bizarre.
Tu sais que si tu continues à taper ton bois comme ça, tu vas finir par te couper un doigt.
Mais non, tout va bien, j'ai l'habitude, ce sera pas la première fois.
J'ai pas envie de te recoudre.
C'est normal que ta clope, elle est quasiment finie entre tes doigts.
Ouais, j'ai tiré une grosse latte.
Rachel, tu trouves pas que cette ligne là sur le sol, elle est bizarre ?
Quelle ligne ? Putain, c'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ?
Y a un problème ?
Vous
mais venez voir.
Je jette ma clope comme une américaine dans les films là. Ouais. Je la jette au loin, puis bah je fais demi-tour.
Ouais. Et je fais demi-tour.
Qu'est-ce qui se passe ?
Okay. Je brûle le patelin.
Vous arrivez dans la cuisine. Vous voyez l'un des ouvriers qui tient en main l'un des bocaux, qui est dans la cuisine. Il y a une sorte de gelée, rouge, enfin rouge sombre, dans le bocal. C'est pas tout à fait liquide, c'est pas solide non plus. Ça fait c'est visqueux.
Oh, c'est un blob, c'est dégueu.
Et du coup, qu'est-ce qui vous arrive ?
Mais c'est quoi ce truc ?
On vous demande pas ce que c'est, vous. On vous demande de faire votre travail.
Je vous signale, comme vous devez sûrement savoir, on est arrivé dans cette maison hier, donc on ne sait rien. Donc juste gardez votre calme, gardez peut-être aussi votre, je sais pas, votre professionnalisme et faites votre travail. Vous êtes pas là pour juger, vous êtes pas là pour regarder les bocaux. Laissez-les tranquilles.
Je suis pas là pour juger, mais je sais reconnaître du sang quand j'en vois. Et je me demande ce que fait du sang dans un bocal.
C'est peut-être pour faire du boudin.
Votre tension augmente encore à tous dehors.
Je sais pas non plus.
Du sang dans une cuisine, effectivement, du boudin, ça paraît logique.
Et on verra ça plus tard. On n'en sait pas plus que vous. Juste, s'il vous plaît, calmez-vous.
Ouais, bon. Nous, on monte à l'étage. Hein.
Très bien, allez-y.
On monte à l'étage. On est dans la chambre. On posera les plaintes ici. On a déjà enlevé les plaintes précédentes.
Très bien, allez travailler et partez ailleurs.
Bon, je fais quoi de ces bocaux là ? Je les prends, je les explose, je les fous dehors ?
En tout cas, ça va.
Non, parce que entre les personnes qui nous disent mélanger le sang des femmes pour en faire de la peinture sur le sol et ça, moi je balance ça moi.
On peut peut-être regarder ça dehors, à la lumière du jour.
Ah ! Whisky est sur les nerfs.
Oh putain, mais Rachel, je vais le buter ce chien.
Non, mais il a besoin de sortir.
Va sortir.
J'ai besoin de m'en griller une.
C'est l'odeur de la cuisine.
Je prends mes lunettes et je nettoie frénétiquement mes verres.
Tu nettoies frénétiquement ta verre. Toi, ta tension baisse de 1. Toi, tu roules encore une cigarette. Et décidément, les mauvaises habitudes contractées au contact des soldats, au contact des samis américains, tes mauvaises habitudes ne partent pas. Elles ne partent pas. Et tu es en train de fumer ta clope désormais. Et en 3 lattes, tu l'as terminée.
Moi ça va, je suis surtout agacée par les deux autres, par les employés.
Je vous préviens, moi je la garde pas cette baraque. Hein.
Non, mais de toute façon, il y a des histoires bizarres de sorcellerie. Mais
En tout cas, il devait
croire aux sorcières. C'est, je pense que c'est ça, c'est une histoire de rituel.
J'en ai rien à foutre d'y croire ou pas, je reste pas là. La maison, et tu sais quoi, en fin de journée, je. Punaise, l'autre tir passe pas avant une semaine. Je retourne à la ville, je dis les longues épées, tu sais quoi, ils ont eu des embrouilles avec la famille, j'en ai rien à faire. On leur donne le terrain, on trouvera quelque chose d'autre avec l'argent.
On les voit ce soir, de toute façon, on commencera à tâter le terrain.
C'est des négociations.
Voilà. En fait, j'ai même pas envie de les voir, ils m'exaspèrent tellement, le majordome.
On n'a pas le choix, et ce serait peut-être bien d'avoir quelques réponses quand même à ce nombre incalculable d'histoires bizarres.
Je vais pas te mentir, je sais vraiment pas si j'ai envie de savoir.
Clonk, 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 ça vient de l'étage. Clonk, clonk, clonk.
Qu'est-ce que vous faites ?
De la peinture.
Alors franchement, c'est pas moi qui m'occupe de là, j'en ai marre, c'est de là. C'est quelqu'un d'autre. Sinon, je vais en prendre un pour taper l'autre.
Rachel, tu voulais pas aller promener le chien dehors là ?
Oui, moi
tu vas promener le chien dehors.
Je vais sortir et je vais faire le. Justement, je vais en profiter pour faire le tour un peu de la maison.
Ouais, toi, tu fais le tour de la maison, ok.
Voilà. Je l'accompagne.
Et Samantha, tu l'accompagnes, ok.
Je vais retourner dans la salle.
Ouais. Ouais.
Regarder un peu plus le portrait qu'on voyait mal.
Pour regarder le portrait, d'accord. Et toi ?
Je suis Abraham en taillant mes fourchettes parce que je suis énervée.
D'accord, tu suis Abraham en taillant tes fourchettes. Donc vous êtes tous les deux dans la pièce de banquet, en tout cas, pendant que vos deux sœurs se dirigent vers l'extérieur pour promener Whisky, de peur qu'il aboie à nouveau et vous surprenne. Vous regardez le portrait. Le portrait est une croûte. Une croûte.
D'accord.
Oh non, j'ai déjà joué dans la voix. Mais
ça, j'ai pas rigolé dans le micro.
Une croûte exécutée par un artiste qui visiblement n'avait aucun talent.
Les traits sont grossiers, il n'y a pas d'arrondi, et il ne maîtrise pas, Abraham, dis-tu à ta sœur ignorante, il ne maîtrise pas la technique du sfumato explorée par Léonard de Vinci.
Bien sûr.
Blablabla.
Je l'écoute pas, justement. Moi, j'entends que blablabla.
Toi, est-il signé?
Non, il est pas signé.
D'accord.
Toi, pendant qu'il regarde le portrait, tu remarques des traces au sol. Tu remarques en fait des. Tu sais pas bien ce que c'est. C'est du bois qui est un peu plus clair, comme si un objet lourd avait été traîné dans la salle de banquet.
Ok, j'essaie de suivre un peu ces traces où elles mènent.
Elles mènent au salon.
Et elles vont pas plus loin.
Elles vont pas plus loin.
Elles vont vers où? Dans le salon, cheminée, canapé.
Vers la fenêtre.
Je jette un coup d'œil à la fenêtre.
Tu vois quelque chose d'horrible. C'est absolument atroce. Samantha et... Whisky.
Rachel.
Samantha, Whisky et Rachel en train de faire le tour de la maison. Non, tu vois sous les fenêtres. Sous les fenêtres, tu vois qu'on a posé, en fait, à ton avis, on a traîné des meubles qu'on a posés devant les fenêtres.
D'accord.
Ce que nous avaient dit les deux de là-haut, qui sont en train de bosser.
Oui, voilà, je me dis seulement qu'un meuble a été traîné. Je vais pas plus loin que ça, j'ai suffisamment de questions, on va pas rester.
Est-ce qu'on peut voir d'où venait le meuble, du coup?
Ouais, il vient de juste à côté. Il reste un vaisselier, c'était un autre vaisselier.
D'accord. Ouais. Alors on peut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans?
Non, il a été traîné, il est parti.
Il est posé là-bas, non?
Oui, alors il était devant la fenêtre et maintenant il est juste à côté de la fenretre, effectivement.
Ah. Vous pouvez
voir ce qu'il y a dedans, il y a de la vaisselle.
Ok.
Donc quelqu'un s'est juste amusé à traîner un truc avec de la vaisselle.
Et à le mettre devant la fenêtre.
Ouais, c'est ce que disait Edouard.
Ça fait un bon repas à Rempart si on se fait tirer dessus de l'autre côté, quoi.
Ouais, ou ça, ou plein d'autres trucs. Je veux dire, entre les sorcières, entre les cannibales, entre les majordomes chelous, bref.
Vous deux, Rachel et Samantha, vous êtes à l'extérieur.
Tout à fait.
Vous êtes à l'extérieur et vous entamez un petit tour de la maison pour que ce brave Whisky puisse faire ses besoins.
Et se calmer.
Vous marchez devant les ruines de la grange, dont il ne reste pas grand-chose, à part des fondations calcinées. Et un peu plus loin, à mesure que vous faites le tour, vous voyez un carré dans lequel se dessine, dans d'où émergent des croix. Un petit cimetière.
Ça doit être le cimetière de la famille. Hein.
Ouais. Peut-être qu'ils ont enterré Elisabeth là.
Tu veux qu'on aille voir? Il y a peut-être des noms.
Du coup, on y va. Hein.
On regarde les tombes, on regarde s'il y a des noms ou s'il y a des...
Ouais, vous regardez les tombes, vous regardez s'il y a des noms. Alors, elles sont toutes recouvertes d'une épaisse couche de neige, sauf une, celle de William Elk, décédé en décembre 1919. Pour le reste, vous reconnaissez un ensemble de noms de Blackford. Mais je sais pas ce que vous essayez de voir.
Attends, il a été enterré là, William? Dans une friche, je trouve ça triste. Il vient du Tennessee, pourquoi il s'est pas fait enterrer là-bas?
Ouais, c'est un peu bizarre. Mais il y aurait peut-être, je sais pas, la tombe de Anne, par exemple.
Ouais, y a pas Anne ou Elisabeth, ou peut-être même Edouard.
Alors, Elisabeth, vous regardez, il n'y a pas Elisabeth.
Elle a disparu, Elisabeth. Ouais, il va y avoir une tombe temps. Avec écrit « Ici, J. Elisabeth assassinée par son frère ».
En revanche, il y a Anne.
À côté.
Toi, t'es dans la maison, hein, tu gardes tes trucs sarcastiques pour toi.
En revanche, il y a Anne et il y a Edouard, oui.
Voilà.
Bah, on continue à faire le tour, quoi.
Si tu pouvais dire à Whisky d'arrêter d'essayer de pisser dans le cimetière, par contre, s'il te plaît.
Oh bah c'est un chien, fais bien ce qu'il peut. Hein. Déjà, il est beaucoup plus calme que tout à l'heure.
D'accord.
On peut remarquer à quel point il est bien élevé.
Et pendant que Whisky souille la mémoire de vos ancêtres... vous êtes à nouveau dans le salon. Et dans le salon, vous constatez que l'un de ces ouvriers à marcher dans la peinture. Alors ils avaient des pots de peinture avec eux, mais ils étaient quand même. Enfin, William avait raison de se plaindre. Il y a une trace de godasse dans le salon.
Alors, moi j'attends pas, en fait, je monte en haut. Je vais leur parler.
Tu montes en haut, d'un pas martial. Pong, pong, pong.
Je regarde d'où vient, du coup.
Tu regardes, ouais, d'où vient.
J'essaie de faire le chemin, en fait.
Alors, tu regardes par terre, et c'est très étonnant. Tu ne vois que deux traces de pieds.
Ouais.
De deux pieds différents. Une trace de botte et une trace d'un pied plus petit, à ton avis féminin. Et cette trace-là, cette deuxième trace, elle est entre le salon et le bureau. Elle a l'air de se diriger vers le bureau.
Donc à peu près par là.
Ouais.
Ok.
Et l'autre est devant la cheminée.
Ok. La cheminée est éteinte pour le moment ?
Non, la cheminée, vous avez continué à l'alimenter.
D'accord. Encore plus étrange. Ok.
Toi, tu montes à l'étage. Ponk, 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 ponk. Et tu passes par le fumoir et tu entres dans la chambre amour où les ouvriers sont en train de travailler. Enfin, ils sont en train de travailler, ils sont plutôt les mains dans les poches à regarder ce qu'ils sont en train de faire. Ils comprennent pas.
Ah, ma bonne dame, vous pouvez peut-être nous dire pourquoi on a commandé des tiges qui font 2,50 m de long alors que, en vérité, il n'y a que 1,80 m. Qu'est-ce que je fais de ça, moi?
Alors là, moi, je suis en train de reprendre ma respiration, grande inspiration. Je jette un coup d'œil à leurs pieds, voir si je vois de la peinture.
Tu jettes un coup d'œil à leurs pieds. Ok, je te dis ça dans un instant. Tu ne vois aucune trace de peinture sur leurs pieds.
Bon, alors je reprends une autre inspiration pour me calmer, parce que ce qui m'avait énervé à la base, c'est pas leur faute. Et j'essaie donc de m'expliquer avec eux, et je leur rappelle gentiment que ce n'est pas moi qui ai commandé ce matériel, ce n'est pas nous qui les avons employés, donc je n'ai pas la moindre idée de quoi ils parlent. Et je peux pas l'aider. Et je lui souris.
D'accord, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On vous laisse les tiges ici, de toute façon elles sont inadaptées, et puis si vous voulez, vous les coupez, puis vous en faites ce que vous voulez, quoi. Mais nous, on nous a donné du matériel défectueux pour poser des plaintes, on avait des plans. Et puis, on peut pas utiliser les plans. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Rentrez chez vous.
D'accord.
Non mais rentrez chez vous. Là, j'ai pas de solution à vous donner. On verra plus tard. De toute façon, éventuellement, vous pourrez revenir une autre fois pour faire le travail pour lequel vous avez été payé. Mais là, je ne sais pas quoi vous dire. Donc juste partez.
Voilà. Ouais, d'accord, mais si on a été payé, on a été payé pour la journée. Enfin, donc nous, on va pas revenir pour ensuite refaire le travail, alors que vous voyez, enfin.
Étant donné que vous êtes là et qu'on est encore, je pense, dans la matinée, donc dans tous les cas, la journée n'est pas finie, donc je pense qu'on pourra la rattraper une autre fois. Je ne pense pas que vous soyez surbooké non plus.
Oh, mais quel capitaliste. Il roule une cigarette et il, enfin, l'un des deux roule une cigarette et s'assoit sur le lit simple de la chambre amour. Il s'assoit en mettant une jambe, en reposant une jambe sur l'autre et laissant apparaître la semelle de sa chaussure. Tu vois un peu de peinture blanche sur la semelle de cette chaussure.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours les voix du scénarium. Il y a des moments où je suis très heureux que ce soit pas filmé. Il y a eu un moment de désespoir total en regardant le
un an j'ai passé.
Le truc qui s'est fini. Je regardais le clavier, la console de prog, je ne savais absolument plus quoi faire. Et à un moment je me suis dit, ah, faut que je mette un jingle qui n'est pas prêt. Donc je commence à chercher le jingle, il y a plus de son, il y a 3 secondes de blanc que vous avez entendu, hein. Enfin, c'est bizarre à dire.
Vous avez été offert par Radio G.
C'est ça. Donc, c'est toujours les voix du scénarium. On va se faire une toute petite pause musicale avant de taper la discute avec Nolwenn. Nolwenn, tu aimes les bestioles, hein, on est d'accord.
J'adore les bestioles.
Et ben du coup, on va pouvoir parler dans quelques instants de comment créer un monstre et pourquoi créer un monstre en jeu de rôle. On va jouer en ping-pong vocal avec des questions.
T'as 4 heures devant toi, là?
Non, à 20 minutes. Ah c'est ouais. déjà pas mal.
On va insérer. Hein.
Mais avant, on va se faire un petit peu de musique avec un duo que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, le morceau est sorti il y a 3 jours.
Pas si longtemps que ça.
Voilà. Moi, j'aime bien les groupes un peu bizarres. J'aime bien Baby Metal, donc c'est du metal japonais avec un côté très pop sucré japonais. Et j'aime bien Bloody Wood. Bloody Wood, c'est un groupe de metal indien. Eh ben, sachez qu'ils ont fait un duo, une feat ensemble. Eh ben, ça donne ce que vous allez écouter. Ça s'appelle Beckhoff. Et on se retrouve tout à l'heure. Baby Metal et Bloody Wood, Behalf, je sais pas comment ça se prononce, je suis nul à la fois en japonais et à la fois en indien, en indie, donc bah voilà, mais c'est super cool, moi je trouve.
J'ai bien aimé.
Ça tape bien et on a regardé le clip là pendant
ça
la
va,
pause. Le clip il est plutôt cool.
Oui, ben t'avais dit, t'avais pas l'air convaincu, mais moi je le trouve sympa.
Mais en fait, c'est un type d'animation dont je suis pas très fan à la base, mais c'est dynamique, c'est souple, ça roule tout seul et ça fait tout à fait le taf en fait.
Moi, j'aime beaucoup les couleurs, enfin la gestion des couleurs dessus, enfin ouais, c'est quelque chose qui
il y a beaucoup de contraste là sur les couleurs voilà, qu'ils ont utilisées, donc c'était vraiment
beau,
cool.
C'est beau visuellement.
Eh bien, on va te solliciter du coup, ma chère Nolwenn, pour discuter des monstres.
Des monstres, tout à fait.
Alors, je vais faire un petit parallèle avec mon autre émission qui s'appelle La Case de Seb, puisqu'il y a une bande dessinée qui s'appelle Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, qui parle de monstres.
De Émile Ferry.
Oui.
Qui était la dessinatrice mise en lumière pour les Utopiales 2024.
Mais oui.
Mais incroyable, je ne savais pas du tout, c'est faux. Je savais
j'adore ce qu'elle fait.
J'ai vu l'exposition qui était aux Utopiales de ce qu'elle a fait sur les monstres.
C'est fait avec ça. Hein.
C'est fait avec des stylos.
C'est fait avec un stylo.
Une technique incroyable et surtout le rendu, il est dingue en fait.
Il y a un niveau de précision et de détail. Si vous avez.
Alors je pense qu'elle a des parts chez Bic par contre.
Ouais, peut-être, ouais.
Mais vraiment, enfin, le rendu au crayon stylo à billes en tout cas, c'est. Il y a un côté très très coloré, très très pop. Et d'un autre côté, ça rend des visuels un peu. Déchiré, je sais pas comment décrire ça, mais comme c'est des coups de crayon, les aplats de couleurs, ils sont pas unis, et vraiment ça donne un aspect, il y a du relief en fait.
Et ouais, la Case de Seb, l'émission qui parle. Non, c'est pas la bonne émission. Mauvaise semaine. Mais moi, ce que j'aime, c'est les monstres, et du coup, j'aime bien en mettre dans mes jeux de rôle. Mais comment on crée un jeu de rôle, un monstre dans un jeu de rôle, et pourquoi? Je pense que d'abord, avant de se demander quel monstre on va mettre, il faut se poser quelle est sa fonction. Je sais pas si tu es d'accord avec ça.
Oui, je suis d'accord.
Est-ce qu'on veut qu'il fasse peur? Est-ce qu'on le veut qu'il se soit un obstacle? Est-ce qu'on veut que ce soit quelque chose qui puisse être un allié? Est-ce qu'il faut que ce soit un combat? Est-ce qu'il y a plein de choses en fait à se poser comme question quand on crée un monstre?
Souvent, un monstre, c'est l'opportunité d'aborder plusieurs des points que tu viens de citer en fait. Un monstre, souvent, c'est l'occasion d'affronter une peur qui est liée à l'histoire d'un personnage, en fait. Ça peut être la peur du noir, la peur des araignées, des insectes. C'est ce qui revient le plus souvent, lié parfois soit à quelque chose d'assez injustifié, entre guillemets, soit à vraiment l'histoire du personnage. Et ça apporte de la profondeur, en fait. Ça permet d'ancrer l'histoire et de rattacher le joueur à ce qui se passe maintenant avec lui, ce qu'il a construit derrière. Donc il y a cet aspect-là qui est hyper intéressant tu peux aussi faire le parallèle avec un monstre incarne quelque chose dans la vie réelle. Par exemple, si tu demandes, enfin moi tu me fais affronter une araignée géante, je suis pas ravie mais j'y vais quoi.
Moi j'y vais pas.
Moi j'y vais, ça va. c'est un terrain de jeu le jeu de rôle.
Oui, c'est un terrain de jeu mais.
Et tu peux te dire si tu te trompes dans le jeu de rôle c'est pas grave. Mais ça te permet de prendre confiance en toi aussi et de prendre le courage de remplir ta déclaration d'impôt. Ce qui n'a rien à voir. Et c'est la démarche qui compte.
C'est la démarche qui compte. Mais alors, c'est aussi un point qui peut être intéressant. C'est est-ce qu'on peut travailler sur les phobies par l'intermédiaire des monstres en jeu de rôle? Ça peut être aussi un point à voir. Mais c'est un autre, complètement un autre sujet.
Je ne suis pas compétente pour répondre à cette question.
Non, mais c'est complètement un autre sujet. Mais une des questions qui peut aussi être importante quand on veut créer un monstre qui va être là, est-ce que c'est une étape ou est-ce que c'est une finalité sur le scénario? Avant même de savoir si c'est un obstacle. Parce qu'un monstre, ça peut être un moyen de locomotion, ça peut être un familier, ça peut aussi même parfois être un compagnon.
Oui, ça me fait penser, je fais le parallèle avec La Bonne Auberge, dont la saison 4 s'est finie il n'y a pas longtemps, c'était exceptionnel.
Le monstre de talent dedans, mais pas le rapport.
Le bestiaire de Pandoc, qui est l'univers dans lequel se déroule, qui a été créé par Lucien Maine, le Meugeux, abrite des créatures assez majestueuses qui s'appellent des Canticaeli, qui sont des sortes de raies-mantas géantes qui flottent dans les airs. Et là, dans ces cas-là, les monstres, c'est carrément un moyen de transport parce que c'est une sorte de petit dirigeable sur lequel on fixe une nacelle. Même si tu peux faire le parallèle, un monstre, ça peut être aussi une source de revenus. Avec les matières premières, il y a des univers où, par exemple, les léviathans, enfin des créatures marines un peu comme les baleines, c'est utilisé pour l'huile, pour la viande, pour les ossements. Donc ça peut être soit un obstacle, soit un élément hyper important du contexte dans lequel le jeu de rôle se déroule aussi.
Ouais, ça peut même être... Alors, pour continuer sur ce que tu dis, ça peut même être des monstres qu'on ne voit jamais, parce que pour raison X ou Y, ils sont déjà tous décédés. Un dinosaure de notre époque, c'est un monstre qu'on ne perçoit que parce qu'il en reste.
Oui, complètement.
Et on peut même avoir soit des monstres qui sont tellement grands qu'on ne peut pas les percevoir. On a des jeux de rôle qui se déroulent sur des dragons, par exemple, qui sont des planètes à leur dimension. Donc le monstre est là. C'est un élément de décor, puisque du coup, on ne peut pas interagir avec.
Cette idée de monstre écosystème, tu la retrouves dans le livre de la Société protectrice des Kaiju de John Scalzi, où en fait, les Kaiju qui sont dépeints par l'auteur sont des écosystèmes. Un peu à la façon de Pacific Rim, où ils ont des parasites qu'on aperçoit vite fait dans le film au moment où ils récupèrent les cadavres. Là, il y a vraiment des écosystèmes qui se sont développés sur leur corps. Et bah, c'est un peu ce qui se passe dans notre monde aussi. Enfin, je veux dire, on a des tas de bestioles, de créatures en nous, pour prendre le mot un peu poétique, mais c'est des bactéries, c'est des micro-organismes en fait. Donc le monstre peut être un écosystème aussi.
On a cette notion-là, effectivement. Alors, je suis en train de chercher en même temps, mentalement, des jeux de rôle où on pourrait avoir ça. Donc, il y a des jeux de rôle où on vit sur une planète dragon. J'ai plus le nom. Je sais que ça existe. Si on va vers le jeu vidéo, les Xenoblade se déroulent sur un monstre gigantesque. Ça m'amène sur une autre question du monstre encore. Le monstre mythique, légendaire, unique, qui n'est pas, qui est une race à lui tout seul. On pourrait prendre comme exemple la Tarasque dans Donjons et Dragons. C'est un seul monstre qui existe. Globalement,
un exemplaire unique, quoi.
Un seul. Tu le tues, t'as éteint sa race.
Du coup, est-ce que c'est une espèce en danger critique d'extinction ou réellement une entité unique?
Alors, quand on parle de la Tarasque, c'est nous qui sommes en danger d'extinction quand on passe à côté, en fait.
D'accord.
Parce que, c'est un truc qui est toujours un peu absurde dans le jeu de rôle, c'est quand on regarde les caractéristiques de certains monstres, on se dit, ouais, alors ça peut être faisable. Non, c'est un monstre unique, avec des compétences uniques, qui n'est pas fait pour être tué. Il est fait éventuellement pour être un élément, et c'est là où
on
avance.
Pour interagir avec.
Voilà, pour interagir
quand
avec.
Les créatures sont pensantes, c'est intéressant aussi. Un parallèle qui est intéressant, c'est les dragons. Souvent, ils ont un peu cette grande polyvalence à être des créatures très, je dirais pas forcément sages, mais en tout cas très intelligentes et extrêmement puissantes. Et en fait, amener ces joueurs devant un dragon, on pousse de côté tout de suite l'option du barde qui veut séduire le dragon, ça nous intéresse pas. Mais si tu prends un dragon, en fait, tu mets tes joueurs face au choix de, est-ce que tu veux être diplomate ou est-ce que tu veux aller lui casser la gueule? Parce que le dragon, il peut faire les deux. Il peut te parler et il peut te casser la gueule. C'est à toi de voir dans quelle façon tu vas se sortir de cette interaction.
Et même parfois, il est capable de faire les deux en même temps.
Oui.
Si on prend, on va pousser le dragon un petit peu plus loin. Il suffit juste de se regarder Shadowrun, par exemple. On a des grands dragons qui sont sous l'apparence d'humains, qui font de la politique, qui sont devenus des personnages tellement présents et intouchables qui sont des éléments scénaristiques, sont des PNJ, ce ne sont plus des monstres. Tu vois ? Alors Shadowrun, c'est un cas particulier, mais ça reste des créatures mythiques sous un vernis humain, si je peux me permettre cette...
Je pense... en fait, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'univers de Dragon, Off to Train with Dragon en anglais,
yes,
avec un accent magnifique. Il y a quelque chose de hyper intéressant dans, en tout cas, le premier film d'animation, c'est que les dragons, au début, sont perçus comme des monstres, on va dire, ennemis. Et après, la vision, elle change complètement et ils deviennent ce dont on parlait tout à l'heure, en fait,
des compagnons.
Moyens de transport, moyens de, presque, en fait, une technologie à part entière parce qu'ils peuvent améliorer les rendements dans l'artisanat, la pêche, la chasse, tout ça.
Donc c'est vrai qu'ils sont multifonctions. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce ne sont pas des compagnons, ce sont un petit peu tout ça. Ça devient même des outils pour
donc
certaines fonctions.
Donc les monstres peuvent être des outils. Attention, les monstres ne tombons pas dans l'exploitation animale.
Non, mais on creuse en fait cette thématique du monstre. Tu parlais tout à l'heure de ressources. Les monstres ressources, c'est une des thématiques principales du jeu vidéo Monster Hunter.
Oui, complètement.
Donc le monstre ressource. Si on reprend, et je vais tirer un trait qui est peut-être un peu gros, mais moi j'aime bien les gros traits, le gobelin, C'est une ressource, puisque c'est une fourniture d'XP.
Le gobelin peut être une ressource aussi, une ressource, on va dire, je mets des guillemets, humaine, dans le sens où comme ils sont, ils se reproduisent vite dans pas mal d'univers, voilà, c'est un peu, on les voit un peu comme de la vermine, ça vit un peu là où ça peut, et puis ça pullule, entre guillemets. Dans l'univers de Terry Pratchett, c'est de la main-d'œuvre.
Oui,
c'est vrai. Ils sont utilisés pour de la main-d'œuvre ouvrière. Donc, vas-y pour faire les faire passer pour en fait.
Ils sont esclavagés.
Voilà, pour des esclaves en fait. Donc, ça peut aussi être de la main-d'œuvre.
Ça peut être de la main-d'œuvre. Donc, un monstre en fait, pour revenir à la question primordiale, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Déjà, au départ, c'est vous voulez faire un monstre. Parce que on peut avoir des idées de monstres géniales. Mais qu'est-ce qu'on veut en faire ? Et comment on veut le faire maintenant ? Enfin, je sais pas si tu... Parce que le comment est hyper important. On peut placer un monstre là. On peut avoir un village comme ça et on va nous coller un dragon pile au milieu. Voilà. Mais si vous faites un scénario de jeu de rôle, je vous invite toujours à réfléchir un peu à la cohérence du truc. Qu'est-ce qu'il fout là, ce dragon ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Pourquoi il est là ? Est-ce qu'il vient se nourrir ? Est-ce qu'il y vit ? Est-ce qu'il est méchant ? Est-ce qu'il est pas méchant ? Comment il interagit avec son environnement ?
Là, en fait, ça aborde des questions de presque de world building, donc de construction de l'univers.
Mais
c'est de l'écosystémique aussi, en fait.
Le monstre est un élément d'univers.
Réfléchir à la place du monstre dans le tout qui est l'univers du jeu de rôle. Et ça peut être... Ça peut être un bon exercice aussi pour les MJ de se dire « Ok, j'ai présenté un monstre à mes joueurs, à mes joueuses, mais je veux leur proposer la porte de sortie, on va dire, de la situation qui devra leur apparaître comme la plus évidente, ne doit pas être le combat. » En gros, de se dire « Ok, je leur mets un monstre, mais moi, je veux pas les emmener vers un combat. » S'ils y vont, c'est que peut-être j'ai pas forcément bien présenté les enjeux autour de cette rencontre, pas forcément bien présenté les conséquences qu'il peut y avoir pour eux ou pour les PNJ. Donc comme le dragon, bah peut-être ok, qu'est-ce qu'il veut ? S'il veut à manger, peut-être ouvrir le dialogue, lui dire bah là-bas t'as des moutons, tu peux aller là-bas et éviter de manger les habitants. Ou pour des monstres plus intelligents aussi, de faire preuve carrément de politique pour se passer de bagarre, quoi.
Oui, mais ta question, pour moi, elle implique des trucs beaucoup plus importants, c'est comment fonctionne ce monstre.
Oui.
Parce que pour se dire, tiens, peut-être que le dragon, là, il veut bouffer, comment il mange ? Qu'est-ce qu'il mange ? Et ça conditionne aussi plein d'éléments de la rencontre. Si effectivement il a faim, bah, il va être certainement un peu plus belliqueux, un peu plus hargneux, que s'il vient de s'engloutir, je sais pas, 10-15 paysans. Et peut-être que c'est un élément aussi scénaristique important de se dire comment je montre la dangerosité et l'action nécessaire à ce monstre. Tu me colles le même dragon en train de dormir paisiblement avec les paysans qui sont autour, bah tu vas peut-être pas avoir forcément envie de lui écraser la tronche. Mais le même dragon qui dort paisiblement avec les babines couvertes de sang et une cinquantaine de paysans décapités autour, eh ben le contexte il est pas le même.
Se mettre dans la vision en fait de l'espèce, c'est pas de nous autres humains et ou autres races.
C'est ça. Et ça solutionne aussi ce que tu disais tout à l'heure. Parce que tu vas pas pouvoir discuter de la même manière ni inciter de la même manière un dragon qui a l'air plutôt paisible à dégager gentiment qu'un dragon qui a l'air beaucoup moins paisible et qui risque de te boulotter toi.
Oui. Donc en fait, ce que tu proposes, si bien compris, c'est en fait d'inviter les joueurs à comprendre l'espèce, le monstre qu'ils ont en face d'eux, quoi.
C'est ça.
Comprendre son régime alimentaire, éventuellement l'immigration qu'il peut effectuer, les risques que ça provoque sur la région, etc.
Alors des fois, à l'échelle d'une partie, on s'en fout. Parce que on va pas se poser la question du gobelin, si on le trucide, là, est-ce qu'il va perdre, est-ce que sa famille va le pleurer ou pas. On s'en tamponne un petit peu. Mais... moralement, ça peut aussi permettre à un joueur qui est plutôt loyal bon de se dire ouais. « Mince, j'ai tué un être qui va manquer à d'autres personnes et qui était pensant. »
C'est hyper hyper cool de jouer sur les aliments des personnages. Vraiment, moi, ça m'en folle tout ce qu'on peut provoquer chez les joueurs, de les mettre face à à des obstacles vraiment où moralement ils ont du mal et je trouve ça trop trop bien. Enfin, c'est un bon exercice aussi.
Ben, la balance morale permet aussi de faire des choses qu'on ferait pas. Mais globalement, c'est souvent un indicateur de jeu plus qu'une façon en fait de réagir à certains éléments. Il y a quelques jeux en fait qui proposaient ça. Je prends par exemple Pendragon, qui oppose deux visions d'une même chose en fait. Je fais de mémoire, mais par exemple, on joue des chevaliers de la table ronde dans Pendragon. Et tu as l'axe sexe, par exemple. Tu vas avoir chasteté et luxure. Et en fait, cet axe-là, sur le sexe, il va aller sur 20. Mais si tu es en dessous de 10, c'était 20 de chaque côté, en fait.
Okay.
Et tu auras, par exemple, 13 en luxure et 7 en chasteté. Donc ton personnage, quand tu vas le jouer, tu vas avoir tendance à plutôt le jouer luxurieux, s'il a 13 en luxure, que chaste. Mais la balance, elle peut bouger. Si tu rates tes jets, bah, tu peux rehausser les niveaux et changer cet alignement-là.
Donc, c'est pas fixe.
C'est pas fixe.
Ok.
Et tu peux aussi vouloir le modifier pour certaines raisons de jeu.
Pour recoller à l'évolution de ton personnage, j'imagine.
Alors si tu y joues juste sur la partie roleplay, oui. Mais tu as aussi une mécanique qui permet d'avoir des bonus, par exemple. Pendragon joue beaucoup sur les différentes religions qu'on pouvait avoir à l'époque. Les catholiques, les pictes, toutes ces religions-là. Et il y a un bonus de religion qui te donne un bonus d'armure quand tu as certaines caractéristiques, certains axes à certains niveaux. Par exemple, si tu es catholique, il vaut mieux être chaste. Et si tu es picte, il vaut mieux être luxurieux.
Je vois comment c'est hyper atypique la façon dont ça s'articule.
Et c'est ultra bien en fait. Mais c'est pas le sujet. On a dévié un petit peu.
Ouais, t'as vachement dévié.
Ouais, mais on peut imaginer le même genre en fait de balance sur un monstre. Se dire, je prends toujours le même exemple de ce dragon, tu as une jauge de satiété, et ben tu as, j'ai la dalle et je suis repu. Et tu fais jouer ça. Mmh. Et ça peut être hyper intéressant à mon avis. De faire une partie où au fur et à mesure du temps que les joueurs avancent, bah, cette jauge elle peut bouger. Et au moment où ils vont le rencontrer, qui sera pas forcément le moment décisif où toi tu l'avais prévu, bah, tu seras obligé de le jouer différemment parce que cette jauge elle aura bougé.
Donc ça implique de faire fonctionner le monde indépendamment des joueurs s'ils n'ont pas rencontré le monstre.
Que sur certains points de passage.
Que sur certains points de passage, ok.
Mais je pense que ça peut être hyper intéressant pour des monstres. C'est un biais qu'on a aussi sur certains jeux de rôle, c'est que des monstres ou des antagonistes sont souvent limités à une zone. On les trouvera toujours là. Mm. Il y a tel monstre, il est là pour garder telle zone. Alors, excusez-moi, mettez un chien au pied d'un poteau, et puis revenez dans deux jours, le chien il est plus là. Hein.
Mm.
Et rendez vos univers vivants avec ces monstres-là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils habitent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Le même dragon, j'ai toujours là. Hein, s'il y a des troupeaux à côté, bah peut-être qu'au bout d'un moment le troupeau il va décider de s'être barré parce que il en a marre de se faire bouffer, ou alors que le dragon aura tout bouffé.
Par rapport à la répartition géographique des monstres, effectivement tu peux jouer sur plein de choses. Je dirais globalement tu peux jouer sur les sous-races d'espèces. En gros, dans la même espèce, tu vas avoir des populations plus restreintes ou en tout cas qui sont plus proches. Ce qui fait une sous-race, la même espèce, mais spécifique. Et en fait, qui peut évoluer dans un biome un tout petit peu différent, avec des paramètres bioclimatiques un tout petit peu différents. Et du coup, tu peux les rencontrer dans un endroit où tu t'y attends pas forcément, si tu connais pas la sous-race en particulier. Tu peux aussi jouer sur tout ce qui est migration. Par exemple, les monstres reptiliens ou aviaires, c'est complètement faisable. Même des monstres insectoïdes, ça passe aussi. En fait, il y a beaucoup de types de monstres qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Et là, ça, c'est pas forcément un certain type d'endroit, mais ça peut jouer sur la saison, sur la température, sur les ressources disponibles aussi. Si l'hiver a été dur, bah peut-être que ton dragon des glaces, il va rester plus souvent dans le coin ou pas. Donc pas hésiter à se pencher en fait sur les réalités qu'on connaît nous pour s'en inspirer. C'est George, l'auteur de Game of Thrones, j'hésite sur son nom, c'est
Martin.
Martin, voilà, qui joue pas mal sur ça aussi dans son univers. Puis bien sûr, Tolkien, qui prend vachement ces informations-là en compte. Inspirez-vous, vous allez trouver des trucs intéressants.
Mais si vous voulez créer un monstre crédible, prenez une encyclopédie animalière, cherchez le monstre qui, selon vous, s'en rapproche le plus. Pelage, fourrure, est-ce qu'ils pondent des œufs, il y a des questions que vous n'en aurez rien à faire. Ça vous apportera rien en termes de jeu parce que votre partie va se dérouler sur un laps de temps court. Mais à partir du moment où vous construisez un scénario qui doit être cohérent, apportez de la valeur à ces monstres-là parce que c'est ça qui va les rendre mémorables en fait.
Et ça va vous aider aussi dans le sens où vous aurez construit votre propre monstre dont vous allez le connaître un peu sur le bout des doigts. Et si jamais il y a un retournement de situation auquel vous vous attendiez pas forcément avec vos joueurs, eh ben non seulement vous serez capable de leur apporter je m'attendais pas à ça, mais je vous propose quand même quelque chose, et ça vous permettra aussi d'apporter des réponses dans l'histoire de justement les joueurs s'ils s'y intéressent, ils veulent des réponses à leurs questions, et donc vous pourrez les avoir. Ça fait un peu surface de l'iceberg, mais ça marchera complètement.
Ça deviendra un élément de l'or.
C'est ça.
Alors, puisqu'on ne va pas pouvoir passer encore 2 heures dessus non plus, mais imaginez aussi un point hyper important. Ne restez pas trop sur du réaliste. Vous avez le droit de casser, de tordre la réalité, de permettre en fait de rentrer dans la suspension d'incrédulité avec des choses. Si on prend le cube gélatineux, par exemple, qu'est-ce que tu veux? À part qu'il bouffe des gens, il n'est pas conscient, il n'y a rien. Et puis le reste, on s'en fout. Voilà, faites-vous plaisir aussi.
Ça peut être l'occasion de laisser place à vos joueurs et joueuses de devenir en fait les enquêteurs de votre propre monde. Et de devenir un peu les scientifiques de laboratoire qui étudient les bestioles.
C'est sûr, ça c'est bien.
Ouais.
On est les scientifiques.
On y ignore de quoi.
Ouais. Enfin voilà quoi. Mais les monstres, on pourrait. Faut qu'on fasse une émission consacrée uniquement aux monstres.
Allons-y.
Ah là là.
Allons-y.
Il y a tellement de choses à faire. On va être obligé de s'arrêter par là. Hein. Mais on aurait pu tellement passer une heure complète à parler de monstres et de création. Je pense qu'on fera qu'on se refasse aussi des petites sessions de world building comme ça. C'est hyper intéressant.
Il y a des questions, par exemple, sur faire ses propres cartes de jeu de rôle. Vraiment, c'est un enfer. Enfin, pour moi, c'est un enfer. Et peut-être pour d'autres gens aussi, le temps d'avoir le déclic.
Ça pourrait être intéressant parce que je connais une personne qui dessine des cartes de jeu de rôle.
Incroyable.
Et qui fait ça très bien.
Je connais des logiciels qui aident, mais c'est pas des personnes du coup.
Et moi, c'est une personne qui est recrutée et souvent qui est bien payée pour. Enfin, je pense qu'elle est bien payée. Je sais pas, mais. Enfin, bref. On en parlera une prochaine fois, et puis on se retrouve dans 15 jours pour parcourir et arpenter ensemble les voies du scénarium.